Midi 31 minutes, point de presse dans une demi-heure du gouvernement du Québec, du ministre de la Santé. Je pense que les nouvelles seront meilleures que ce qu'on a depuis le début de la semaine. Là, Julie, c'est pas très, très bon. Nuance sur les chiffres qui viennent tout juste d'être publiés pour la journée. Alors, on parle aujourd'hui, Julie, de 251 nouveaux cas. Ça va? Alors, on est en bas de 300. Cependant, ils avaient omis, ou je ne sais pas par quel principe là, de collection de données. Ils avaient omis d'ajouter 248 cas survenus au cours des dernières journées. Alors, quand tu les additionnes tous les deux, là, ça fait à peu près 500 cas, ça va? Mais c'est les cas pour la journée, là, pour la journée d'hier, en fait, c'est 251. C'est ce qu'il faut retenir. Même chose pour les décès. 3 décès sont inscrits, des nouveaux décès. 2 décès qui sont survenus dans les 24 dernières heures et 1 décès survenu entre le 10 et le 15 septembre. Ça ne veut pas dire que c'est moins grave, mais ça veut dire quand même qu'il y a une tendance qui est à la hausse. Parlons maintenant du ministre de la Santé. Je ne sais pas si j'ai le temps de la passer au complet, Julie, puis je vais te permettre de commenter tout de suite après. Okay? On a brièvement abordé la question tantôt. Le ministre de la Santé qui pointe du doigt un individu disant que c'est une irresponsable d'aller coiffer du monde parce qu'elle se savait atteinte de COVID-19. L'histoire nous dit plus tard que ce n'était pas vrai. C'est bon? On va entendre ce qu'elle a dit à Paul Arcand, puis je vais tout de suite te laisser réagir tout de suite après. Ça te va?
Oui, tout à fait, Robert.
Parfait. Alors voici, c'est un nom d'emprunt, je pense qu'ils l'ont appelé Manon, parce que la dame, elle ne voulait pas s'identifier, parce qu'elle est quand même ostracisée de ce temps-là, pointée du doigt. Alors voici ce que ça donne.
Jeudi, le 3 septembre, j'étais à mon salon et sur l'heure du midi, j'ai commencé à faire une température qui semblait un peu différente des frissons et tout ça. J'ai fermé mon salon à midi et demi. Je me suis envenue à l'appartement pour apprendre par réseau téléphonique que j'étais atteinte du COVID, qu'on m'avait refilé le COVID et que je devais aller faire des tests. Donc, vendredi, le 4 septembre, j'ai été faire les tests et mon mari la même chose aussi pour avoir les résultats samedi le 5 septembre disant que nous étions porteurs du virus. J'ai été en repos pour 15 jours comme tout le monde, dans la quarantaine. Dimanche le 6, j'avais une grosse fatigue, j'ai dormi toute la journée à terre, là, pas d'énergie, fiévreuse, vraiment très mal en point. Lundi, le 7 septembre, je me suis levée comme si de rien n'était, de bonne humeur, tout était correct, tout était parfait. Donc, à ce moment-là, on avait un téléphone à tous les jours, à tous les deux jours, dépendant, pour voir comment est-ce qu'on allait. J'ai pas eu besoin de médication. Je surveillais ma température, je faisais ce qu'il me disait, boire beaucoup d'eau, prendre les Tylenol, ces choses-là. J'ai jamais eu aucun autre problème. J'ai été en congé approuvé que j'étais capable de circuler librement dimanche le 13 septembre. Et ça, en tant que COVID, j'ai été chanceuse. Je peux dire que je l'ai passé quand même assez bien. Mais ce qui a été très dérangeant, ça a été tous les à côté que les gens ont fait mon jugement sans savoir qu'est-ce qu'il en était. J'ai été accusée par des gens de résidence, une résidence entre autres, où la madame m'a dit que je savais que je l'avais et puis que j'ai contaminé. Ça, cette journée-là, c'est mercredi le 2. C'est pas deux semaines avant, c'est le mardi, j'en ai visité deux. Le mercredi, j'en ai visité deux.
OK, 4 au total.
Exactement.
Et quand vous alliez dans ces résidences, est-ce que vous portiez le masque?
Vous saviez, monsieur, comment est-ce que j'ai respecté les consignes, vous ne pouvez pas savoir. La seule résidence, il y a quelque chose à me reprocher, c'est la résidence qu'on entend parler tout le temps et qui disent que ça n'a pas de bon sens. Mais de toute façon, je comprends qu'ils ont mal. Je comprends qu'ils ont été très dérangés par la situation. Je les en veux même pas parce qu'ils ont parlé à travers le chapeau. Parce que j'ai coiffé ma mère mercredi le 2, dans sa chambre, toujours avec le masque. J'ai coiffé une autre madame dans le salon qui appartient à la résidence, toujours avec le masque. Si vous saviez comment est-ce que je tiens à ça, ça n'a jamais été dit autant que ça. Mais on a parlé, à travers le chapeau, parce que quand les gens ont été concernés par ça, je ne le savais même pas moi-même que j'étais atteinte.
De quelle façon vous pensez que vous êtes entrée en contact avec le virus?
Oui, je le sais très bien, parce que lundi, le 31 août, j'avais une consultation avec une dame thérapeutique, et puis c'est cette dame-là qui m'a appelée pour dire qu'elle était désolée de me l'avoir refilée. Et la santé a appelé cette dame-là pour dire qu'elle-même, elle avait été en contact avec quelqu'un qui avait le COVID. Et ça, c'est une traînée de poudre qui se descend d'un à l'autre. Et c'est de cette dame-là que je l'ai, moi, attrapée. On a porté le masque à l'entrée. On était les trois, mon mari, moi et cette dame-là. On avait le masque à l'entrée. Nous étions assis à distance éloignée, sans masque. Et pour quitter, quand l'interview a été finie, on a remis nos masques pour quitter. Et puis, ça a été comme ça que ça m'a sauté dessus.
Quand vous avez entendu le ministre Christian Dubé dire que vous saviez que vous étiez contagieuse, que vous êtes donc le responsable de la contamination de d'autres personnes dans les résidences que vous avez visitées ou vous avez travaillé.
Oui.
Ça a été quoi votre réaction quand vous l'avez entendu?
Si vous saviez, monsieur, comment est-ce que je me suis fait détruire, que ce soit par l'histoire de monsieur Dubé avec sa nouvelle, les journalistes qui ont tapé dessus, le journal local de la place de Thetford, les gens, comment est-ce que les gens ont été méchants, comment est-ce que les gens, c'est pas possible. C'est beau de respecter les consignes, je trouve ça parfait, mais les gens parlent sans savoir qu'est-ce qu'ils ont à dire. Comme la propriétaire de la résidence où ma mère est, elle m'a appelé le dimanche, le 6, pour me dire « tu le savais, puis tu nous as contaminés, puis c'était gros ». J'étais même pas au courant, puis je suis jamais assez méchante pour savoir qu'un microbe comme ça, tu fais pas des niaiseries avec ça. Les gens ont tellement été méchants et j'ai tellement été jugée sévèrement en étant irresponsable. C'est beau de mettre le masque, c'est beau de se laver les mains, je trouve ça parfait. Mais si les gens avaient un petit peu plus d'humanité, ça serait pas pire pantoute pour compléter les consignes.
Voilà. Alors, celle que vous avez entendue, Manon, nom d'emprunt, cette coiffeuse pointée du doigt par le ministre Dubé. Julie, je te laisse commenter.
Ben, écoute, Robert, d'abord, la dame, là, moi, je veux la saluer, là. Elle parle avec beaucoup de courage puis d'aplomb, là. Elle est capable de raconter son histoire. Elle a des dates et documentée, elle sait où elle a pris ça. Elle a un calendrier de ses sorties, de qui elle a vu, où, tu sais, là-dessus, là, chapeau, parce que c'est comme si elle avait prévu ça, puis que... Bon, le reste, là, Robert, là, c'est certain que ce que dit le ministre, là, ça crée un préjudice incommensurable à cette dame-là. C'est épouvantable, là, ce qu'elle a à payer à cause de cette erreur-là, tant sur les médias sociaux, dans son milieu, les journaux locaux. Cette femme-là, là, puis ça laisse des traces, Robert. On a beau dire après coup, on s'est trompé, c'est pas vrai. On a beau dire ça, là, ça laisse des traces et le mal
est fait. Un sentiment profond d'injustice. Parce que tu regardes aller, il y a des jeunes, des complotistes, du monde qui font des réunions qui sont plus que 10, puis des manifestations, puis ils sont 1000, 10 000, puis bon, mais comme tu veux, là. Puis ces gens-là sont pas nommés ni pointés du doigt, même que le premier ministre disait, pour ce qui est des manifestations, on veut pas faire de martyrs, hein? On veut pas agir avec plus de muscles lorsqu'il est question de pointer du doigt les manifestants. Alors qu'elle, coiffeuse, qui prend soin des personnes...
On n'a pas hésité à taper
dessus. Mais oui, qui prend soin des personnes âgées, sans trop de vérification, tu prends grand plaisir à taper dessus dans un point de presse national. Imagine le sentiment profond d'injustice qu'elle doit vivre.
Oui, oui. Monsieur Dubé, il a fait une erreur, là, puis je suis convaincu qu'il renommera plus personne, puis il ne va plus jamais prétendre qu'il savait ou qu'il ne savait pas, là. Il va avoir appris de cette erreur-là. Mais effectivement, il est entouré de plein de gens. Alors, il y a quelqu'un dans son entourage qui n'a pas vérifié, comme le disait Félix, ça vaut mieux vérifier deux fois, trois fois, plus qu'une seule. Mais il y a quelqu'un qui a mal vérifié, quelqu'un qui n'a pas bien fait sa job, quelqu'un qui n'a pas informé correctement le ministre. Et le ministre devait être vraiment très mécontent, Mais moi, je vous assure que dans les prochains points de presse, M. Dubé va faire très attention, puis il ne pointera plus personne, puis il ne dira plus que les gens savaient quand il ne sait pas, quand il n'osera même plus embarquer sur cette patinoire-là.
On verra, de toute façon, il y a un point de presse, on va l'avoir un exemple. L'exemple va survenir dans 20 minutes à peu près avec le point de presse que va donner justement le ministre Dubé.
Alors, puis Robert, ce genre d'événement-là, là, c'est pour la COVID, là, c'est pour la pandémie puis tout ça, mais que les que quelqu'un dit quelque chose ou des journalistes qui disent quelque chose à propos d'un individu, puis le lendemain, il s'avère que c'est pas vrai. Quand on essaie de se rétracter, là, ben ça a plus de portée, ça a plus d'impact, ça rayonne pas comme information, puis les gens en subissent tout le temps. Un préjudice considérable.
Bon, alors, on va s'arrêter quelques instants. Retour de la pause des affaires municipales à Trois-Rivières, si tu veux. On va parler de transparence, entre autres, et de ce déversement des égouts dans la rivière et le fleuve Saint-Laurent. C'est terminé, on a réparé, mais il reste quand même que nos installations sont vieillissantes. On en parle avec Julie après la pause. Le jeudi et le vendredi avec Julie Boulay, deux sujets à saveur municipale. On est à Trois-Rivières, Julie. Ça a été amené par Marie-Annick Mercure. Elle veut plus de transparence et ses collègues ne pensent pas tout à fait comme elle. Elle fait cavalier seul. Que dire de l'idée d'amener plus de transparence au conseil de ville de Trois-Rivières? Est-ce que c'est important d'aller là? Et pour quelle raison qu'il y a de la réticence à vouloir aller vers une plus grande présence des médias, entre autres lors des séances qui se font actuellement à huis clos?
Bien, Robert, la tendance partout, puis je pense que les citoyens, c'est ce qu'ils réclament, c'est ce qu'ils attendent de la part de leurs élus, d'avoir plus de transparence, d'être capable de savoir ce qui s'est passé, ce qui s'est dit dans les rencontres, les plénières, les rencontres de préparation. Alors, je pense que la population, là, aujourd'hui, là, c'est ce qu'elle s'attend de la part de ses élus, puis c'est ce qu'elle souhaite. Je pense que Marie-Annick, telle qu'on la connaît, là, c'est tout d'un bloc, c'est jamais gris, c'est tout blanc, tout noir. Son idée était correcte. Je pense que c'est pertinent de vouloir plus de transparence. Maintenant, comme elle n'a pas beaucoup d'appui autour de la table, parce que quand elle fait quelque chose, elle n'y va jamais avec le dos de la cuillère, là, elle n'y va jamais avec beaucoup de diplomatie. Alors, quand elle apporte des choses qui soulèvent de la controverse, elle devrait mieux préparer son terrain. Elle devrait mieux préparer sa piste d'atterrissage, puis à ce moment-là, elle réussirait peut-être à passer plus de dossiers quand elle se pointerait devant ses collègues. Tu sais, si tu n'as pas parlé à tes collègues, si tu ne les as pas mis dans le coup, si tu n'as pas essayé de trouver, comment on peut écrire cette... il y a une façon de composer une résolution. Alors, si elle n'a pas consulté, si elle ne s'est pas assurée, elle n'a pas assuré ses arrières, est arrivée, elle a voulu défoncer la porte avec sa résolution qui était vraiment là.
Parce qu'on dit que c'est correct de faire ce qu'elle fait là, mais on dit que c'est dans la forme où elle se trompe. Oui, mais c'est facile à dire. C'est quoi la forme, là? Elle a quoi?
La forme, Robert, là, c'est dans la façon d'amener les choses. C'est une question d'attitude, une question de travail d'équipe. Alors, quand tu sais là, que ce que tu veux apporter est sensible, bien, normalement, là, tu vas voir tes collègues, là, puis tu essaies de préparer le terrain avant qu'ils votent. Tu essaies de voir, ils logent où? Ils sont-tu d'accord? Ils veulent-tu des modifications? Qu'est-ce que ça me prendrait pour qu'ils adhèrent à mon principe, à mon idée? Mais elle est toute d'un bloc, puis elle rentre dedans, et on peut admirer son authenticité. Alors, c'est quelqu'un de vrai, quelqu'un de transparent, quelqu'un d'honnête, mais c'est plus compliqué que ça en politique. C'est plus compliqué que ça. Puis il y a des gens qui sont là pour jouer des games. Puis il y a des gens qui ont d'autres intérêts que... Alors, si elle veut réussir à faire avancer ses idées, il faut qu'elle prépare mieux l'entrée en matière. Il faut qu'elle se l'ait une autre attitude, plus ouverte, plus de consultations, puis plus de travailler en équipe, là. Tant qu'elle n'aura pas cette attitude-là, là, Robert, là, tout ce qu'elle va présenter, Marie-Annick, là, a bien des chances de se le voir refuser.
Autre sujet à la ville de Trois-Rivières. Écoute, ça nous a fait bien mauvaise publicité à l'échelle du Québec. Là, on n'avait pas besoin de ça du tout. Le Grand Flush Gate, comme on l'a baptisé. De toute façon, ça vient de Montréal, ça, à l'époque, quand Montréal nous avait envoyé sa merde là, pendant des jours et des jours. Je pense qu'on n'est pas mieux, nous autres, avec ce qu'on a fait dans le fleuve Saint-Laurent. Sauf que bah, c'est pas de notre faute, c'est pas intentionnel. On a pas fait ça pour faire suer le reste du Québec. Là. C'est un bris. OK, un bris de tuyauterie puis d'installation. Mais ce qu'il faut retenir, Julie, puis je te lance là-dessus, comme leçon de tout ça, c'est que ça ne fait que commencer.
Ben, écoute, oui, c'est ce qu'on peut se poser. Tu te rappelles, Robert, premièrement, quand c'est arrivé à Montréal, on était tous scandalisés.
Ben oui, outré, moi le premier.
Ça va finir par arriver chez nous.
Oui, oui.
On était tous scandalisés que Montréal fasse ça. On a fait pire, là, parce que ça a duré pire dans le sens, pas nécessairement en termes de quantité, mais
ben,
ça a duré plus longtemps chez nous.
Il faudrait vérifier les quantités puis les comparer, oui. Là, mais je peux te dire qu'on est en voiture, là, avec ce qui
ça.
A été déversé
dire,
depuis
là,
une semaine.
On n'est pas loin d'être les premiers, là. On n'est pas loin d'être des champions, là, dans la quantité qui a été déversée. Ceci dit, Robert, là, ce qu'il faut retenir là-dedans, là, c'est qu'il y a des leçons à tirer. Il y a des leçons à tirer pour les autorités, là, pour la maire, son équipe, les conseillers. Il faut pas que ça se répète. Il faut pas que ça se répète, puis je comprends pas qu'on n'a pas entendu plus haut et fort les environnementalistes de ce monde, qui sont toujours... les premiers à crier pour tout et rien, des fois. Alors, je comprends pas comment se fait que, dans ce cas-ci, on les a pas entendus.
Ben, un peu, alors, là, il y a quelqu'un, là, il y a un verre qui a parlé avec Catherine plus tôt cette semaine, là, en disant qu'il y a des solutions pour retenir les solides, là, dans les bassins de rétention. Puis bon, c'est un technique, son affaire. Non, mais moi, là où je veux t'amener, Julie, c'est que, là, c'est beau de se bâtir des colisées, puis de se faire des belles rues, puis des pistes cyclables, là, mais les ressources que l'on a, je pense qu'il va falloir les attribuer à la restauration du sous-sol de nos municipalités, là. Puis pas qu'à Trois-Rivières.
C'est clair, Robert, tu as tout à fait raison. Puis les politiciens, tous politiciens confondus depuis des décennies, n'ont pas beaucoup investi dans nos infrastructures souterraines. C'est toujours plus payant construire un colisée, puis réparer des routes, mettre de l'asphalte. C'est toujours plus payant politiquement, ça attire plus de votes, c'est visible, les gens voient que... Mais écoute, là, ça, c'est assez. C'est assez, Robert, là. Dans toutes les villes du Québec, les infrastructures souterraines sont en très mauvais état. Et là, on a vu ce que ça donnait quand ça pète. Alors, j'imagine, j'espère qu'on est capable de faire un bon diagnostic du reste du réseau, parce que là, il y a peut-être une place, là, mais il y en a, le réseau, il est plus vaste que ça. Alors, j'espère qu'on est capable de faire un bon diagnostic de la qualité du réseau, de son état, puis qu'on est capable d'anticiper, puis de réparer avant que les infrastructures cèdent ou avant qu'il y ait des bris qui occasionnent de tels déversements.
Tu sais, on veut relancer l'économie. On veut relancer l'économie au Québec, là, puis au Canada, là. Je sais que ça a déjà existé, des grands programmes d'infrastructures, là, mais je pense que c'est là où il va falloir se concentrer.
Ça existe, les grands programmes, ils existent tout le temps, Robert.
Oui.
C'est sûr qu'il n'y a jamais assez d'argent
oui.
pour répondre à tous les besoins.
Et est-ce qu'il y a assez d'entreprises pour être capable d'entreprendre le chantier majeur de rénovation du Québec dans son sous-sol? Faudra voir. Julie, c'est déjà terminé. Dans 5 minutes, point de presse du ministre de la Santé. J'ai hâte de voir ce qu'on va nous annoncer avec l'augmentation encore des cas. J'espère qu'on n'enverra pas le Québec en grand confinement.
Écoute, il faut pas, Robert.
Ça m'atteindrait. Moi, personnellement, ça m'atteindrait là, de me dire, Robert, fini le hockey, on vous retourne après fête. Ça va vraiment me toucher, moi, personnellement. Je suis convaincu qu'il y en a qui nous écoutent qui le seront tout autant. Alors,
mais l'économie, Robert, il faut penser à l'économie. Là. Tu sais, il y a les loisirs, oui, c'est vrai que c'est bon pour notre morale, là, mais au niveau de l'économie...
Oui,
là,
mais les loisirs,
moi,
ça fait virer l'économie.
Ça,
non, mais les loisirs, ça fait virer l'économie. T'es toi-même qui étais ministre du tourisme, tu le sais.
Oui, ça fait virer. Mais tu sais, s'il faut qu'on ferme les restaurants, qu'on ferme les gyms, les spas, les... tu sais, là, il va y avoir une gradation, là, évidemment. Là, mais ces commerces-là, là... ils ont déjà pâti beaucoup. Ils ont de la difficulté encore aujourd'hui à se relever de cette période-là. On vient de fermer leurs terrasses à l'extérieur. Ils sont obligés de fonctionner à capacité réduite à l'intérieur. Alors moi, je me dis que s'il faut qu'on ferme les commerces puis qu'on ferme d'autres entreprises, écoute, moi, je pense que le prix à payer va être lourd et je pense que le gouvernement Legault va perdre des plumes cette fois-ci.
OK, on s'en reparle demain. Merci. Bon après-midi. Profite du beau temps. Bye-bye, Julie. Bye-bye, elle est déjà partie, fort probablement. Alors, bye-bye.
Excuse-moi, oui, j'avais enlevé les écouteurs.
Pas grave. Bye-bye.
Bonjour à tout le monde.
Salut, à demain.